quelle est mon identité et en quoi cet élément d'innovation, de nouveauté, peut-il être ou un risque ou une chance pour ce que je suis ou pour ma vocation. Alors je vais prendre quelques exemples pour que ça soit peut-être plus concret. Dans les premiers siècles, pour les pères de l'Église, au 3e et 4e siècle, eh bien, s'est posée une question. L'Église, qui était d'abord dans un milieu juif, va se confronter à la culture de l'époque, qui est la culture grecque, puis gréco-latine, des penseurs, des philosophes, le théâtre grec. Alors, certains pères de l'Église vont insister sur la dimension risque, en disant, attention, nous sommes chrétiens, notre principe, notre identité, c'est de fonder notre foi sur la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Mais d'autres pères de l'Église vont insister sur la dimension chance, et ils vont étudier les philosophes grecs pour pouvoir s'ouvrir à cette culture et y annoncer Jésus-Christ. Et ce débat, finalement, se prolonge, se continue à chaque siècle de l'histoire de l'Église. Au XIIIe siècle, au temps de saint Thomas d'Aquin, il va y avoir tout un débat dans l'Église par rapport à la philosophie d'Aristote. Certains vont dire « Attention, nous risquons de nous égarer et de perdre notre identité en nous ouvrant à cette philosophie. » Mais d'autres vont dire « Non, il y a une chance, cette pensée va nous aider à renouveler la pensée théologique de l'Église catholique. » Et ce sera le courant de saint Albert le Grand, de saint Thomas d'Aquin. Et nous voyons que cette problématique est encore la même aujourd'hui dans le monde contemporain. Alors, on voit bien que, pour résumer, un peu pour caricaturer, la tendance traditionnaliste ou intégriste, c'est de se figer sur l'identité, en disant l'identité dans la catéchisme, l'identité dans la liturgie, l'identité dans la morale, c'est cela, et on se ferme à l'innovation, à la nouveauté. Donc c'est le risque d'une identité qui est posée, mais sans ouverture, sans innovation. Et dans le progressisme, entre guillemets, on a souvent l'effet inverse, c'est-à-dire une ouverture vers les autres confessions religieuses, vers les autres grandes religions, vers les autres grands courants de pensée. L'ouverture est réelle, mais souvent au détriment de l'identité. On s'est tellement ouvert au protestantisme et à l'orthodoxie qu'on ne sait plus très bien quelle est notre identité catholique. On s'est tellement ouvert aux autres religions qu'on ne sait plus très bien quelle est la place de Jésus, s'il est vraiment le seul et unique Fils de Dieu et le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc ici, le risque est inverse, de vivre une innovation et une ouverture, mais avec la perte de l'identité. Alors, nous pouvons utiliser, on pourrait dire, presque cette grille de lecture pour bien des problèmes dans la vie de l'Église aujourd'hui. Par exemple, au XXe siècle, nous voyons un extraordinaire essor du laïcat. Et d'un côté, on peut y voir une chance formidable pour le peuple de Dieu. Ça va être bien sûr ce que va nous dire le Concile Vatican II. Mais en même temps, il est vrai qu'il est porteur de risque si on utilisait une problématique d'opposition ou de conflit avec les ministères ordonnés de diacres, de prêtres ou d'évêques. Donc si on veut opposer une église de la base, une église du peuple, et avec une église qui soit celle du haut de la hiérarchie. Donc si, évidemment, on cherche à ce que les laïcs se substituent au rôle du prêtre, à ce moment-là, l'essor du laïcat devient non pas seulement une chance, mais un risque. Alors, on pourrait prendre encore cette problématique par rapport à la question de l'inculturation dans la liturgie de l'Église. On voit que autour de Vatican II, il y a de nombreux essais de célébrer l'Eucharistie et dans des cultures locales. Alors, c'est une chance pour l'incarnation que ce qu'il y a de plus beau dans l'expression culturelle des peuples d'Asie, d'Afrique, puissent vivre comme une sorte d'assomption à travers la liturgie de l'Église.